Bonjour Patrick Kanner.
Bonjour, je réveille.
On attend toujours le remaniement gouvernemental. On est même d'ailleurs plus tout à fait sûr que ça soit pour aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous, est-ce si long?
L'impression que l'avion ne sait pas où il va. Quand le ciel est bleu et quand tout va bien, on met le pilote automatique. Quand il y a des turbulences, il faut que les deux copilotes se parlent et sachent bien tenir le cap. Et là, on s'interroge vraiment si aujourd'hui, il y a une totale osmose entre le président et le Premier ministre, qui est un élément très solide dans cette majorité, peut-être même trop solide au goût de certains. Et manifestement, le président souhaite reprendre la main. Donc, attention danger, on est devant une situation périlleuse, et un gouvernement qui n'est pas nommé après plus d'une semaine maintenant, c'est quand même inédit. C'est peut-être ça le nouveau monde.
Oui, bon, il faut rappeler qu'en Belgique, ça a été plus de 500 jours sans gouvernement, donc tout est relatif. Mais vous pensez, si je comprends bien, que Édouard Philippe aujourd'hui est dans une position suffisamment forte pour poser des exigences sur la formation du gouvernement qui peut-être poserait problème à Emmanuel Macron et que c'est là que ça coincerait, au fond, le rapport de force entre les deux?
Manifestement, Édouard Philippe a présenté par exemple des candidatures pour le poste de ministre de l'Intérieur qui ont été, je crois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais retoquées par le président de la République. C'est quand même un poste essentiel.
On parle notamment de Gérald Darmanin, par exemple.
Voilà, entre autres, qui était déjà dans le circuit depuis longtemps, mais ça signifierait qu'un homme de droite, voilà, parce que c'est un homme de droite, M. Darmanin, occuperait un poste régalien qui jusqu'à présent était occupé par des personnes qui étaient plutôt issues de la gauche. Donc le fameux ni droite ni gauche devient un grand écart difficile à gérer. Et ça montre aussi les limites du macronisme. Le macronisme, finalement, c'est quoi l'idéologie du macronisme? Je ne l'ai pas encore trouvé. Est-ce qu'il y a une histoire? Non. Est-ce qu'il y a un parti organisé au sens classique du terme? Manifestement, non. Donc tout ceci montre que, je reprends l'expression de turbulence, on est face à une situation qui est moins maîtrisée qu'elle ne devrait l'être, alors qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas une crise majeure de gouvernance. Je pense qu'il y aura une solution, qu'il y aura un gouvernement avant la fin de la semaine. Mais c'est un petit signe qui peut nous intéresser, nous qui sommes dans l'opposition, mais une opposition non protestataire, une opposition de construction d'une alternance.
Est-ce que vous croyez à l'effet de relance, de nouvelle dynamique d'un remaniement ministériel, ou est-ce qu'au fond c'est un leurre tout ça?
L'histoire récente nous montre qu'aucun remaniement a permis de relancer le président de la République. On parlait de l'an 2 il y a quelques jours pour Macron. Voilà, je pense que l'an 2, on va encore l'attendre. On est plutôt dans l'an 1 bis et encore, même inter. Donc nous sommes manifestement face à une situation qui n'améliorera pas l'image du président de la République. Ce qu'attendent les Français, finalement, c'est d'abord les résultats. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette politique est considérée comme injuste, non pas de manière psychologique, mais parce qu'elle est profondément injuste.
Vous avez annoncé hier, Patrick Kanner, avoir déposé une demande officielle pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels dans l'Église en France. Alors tout d'abord, sur un plan pratique, dans quel délai saurons-nous si votre demande est acceptée?
Une semaine. Une semaine, puisque la commission des lois va être saisie au Sénat, que Mme Belloubet va être saisie puisqu'il y a des affaires judiciaires en cours, et que c'est la conférence des présidents, dans notre jargon, présidée par M. Larcher, qui, au bout du bout, décidera de la création de cette commission.
La droite, qui est majoritaire au Sénat, est-elle prête à vous suivre?
Elle n'est pas favorable à cette commission, je le regrette. Je le regrette parce que ce n'est pas un problème de droite-gauche, c'est un problème de société. Une église qui est très importante dans l'histoire de la construction de notre nation et qui aujourd'hui n'a pas voulu traiter ce phénomène majeur de milliers d'enfants qui ont été abusés par des prédateurs. Il faut appeler un chat un chat. Et nous, ce que nous voulons, ce n'est pas mettre en accusation l'Église. Bien au contraire, c'est répondre à l'attente de ces chrétiens que nous avons reçus, de témoignages chrétiens qui nous disent « mais aidez-nous ». À l'interne, nous n'y arriverons pas. Il faut qu'il y ait une intervention extérieure pour enfin percer l'abcès et permettre que l'Église retrouve une sérénité et surtout une confiance dans l'esprit des catholiques eux-mêmes.
Qu'est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire apporterait de plus que les enquêtes judiciaires qui sont déjà en cours?
L'enquête judiciaire traite de cas très isolé, très ouais. ponctuel. La question, c'est tous les cas qui ne sont jamais sortis. Parce que les enfants, et surtout leurs parents, n'ont pas osé vous le mettre en cause la hiérarchie de l'Église, n'ont pas voulu être devant un phénomène de honte, parce qu'évidemment, il y a ça aussi qui est pesé. Puis il y a les croyances religieuses. Donc, cette forme d'omerta était-elle organisée ou pas organisée ? Et la vraie question qui est posée par cette commission, qui sera posée si elle est créée, ouais, si naturellement, ouais. l'objectif c'est, y avait-il ou pas un système organisé de dissimulation et qui, de ces crimes pédophiles ?
Qui voudriez-vous entendre ? Alors des victimes, mais aussi des ecclésiastiques, on pourrait imaginer des évêques, des archevêques, des cardinaux
Bien évidemment, la commission d'enquête a tout droit de convoquer, ouais. je dis bien de convoquer, et de faire prêter sous serment toute une série de personnes qui pourraient être utiles à l'émergence de la vérité. Et donc, il y aura des victimes, d'anciennes victimes, des parents, mais évidemment aussi le monde ecclésiastique qui doit pouvoir s'exprimer, sachant que beaucoup de membres du clergé souhaitent obtenir la vérité sur ces questions.
Autour de la question religieuse, toujours, une note confidentielle des services de renseignement sur les signalements de cas de communautarisme musulman dans les établissements scolaires a été adressée récemment au cabinet du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Éducation. Il s'agit de cas très précis qui sont localisés, dont les établissements sont cités. Il y a parfois des témoignages de professeurs. Alors, par exemple, refus de dessiner des représentations humaines de la part d'enfants, se boucher les oreilles quand on passe de la musique en classe, refus d'aller à la piscine par peur de boire la tasse et de rompre, du coup, le jeûne du Ramadan, des élèves musulmans insultés par d'autres quand ils mangent des produits non halal. La note s'inquiète de la gravité des événements qui augmente plus en termes de gravité qu'en termes de nombre, il faut le préciser. Quelle réponse faudrait-il apporter à ce type de situation ?
Nous sommes devant des phénomènes que je connais bien. J'ai été ministre de la ville et j'ai vu ces phénomènes de radicalisation progresser. Dans les clubs de sport, j'étais ministre des sports aussi, dans le secteur associatif. Et donc il faut créer les digues. Les digues face à ces phénomènes de radicalisation, et moi je suis pour une tolérance zéro, hein, pour être très clair, l'école de la République n'a pas à être perturbée par quelques convictions religieuses, politiques, que ce soit, naturellement. Nous devons apporter un service public de qualité et égal pour tous. À partir de là, les digues, c'est quoi ? C'est d'abord la formation des enseignants. Comment former les enseignants pour que face à de tels phénomènes, ils puissent avoir la bonne réponse. C'est aussi la présence associative dans les quartiers. Quand le secteur associatif, celui de l'éducation populaire, est fragilisé, par exemple par la baisse des contrats aidés, eh bien ce sont d'autres qui ont d'autres moyens qui viennent prendre la place, la nature ayant horreur du vide. C'est aussi naturellement l'approche avec les parents pour leur dire « mais attention, l'école de la République, ce n'est pas une annexe de telle ou telle confession religieuse ». Donc c'est un travail qui n'est pas spectaculaire, je vous le concède, mais qui est un travail de fond.
Et qui sera long, non ?
Et qui sera long. C'est pour ça qu'il ne faut pas diminuer les moyens. Et moi, je suis effaré de voir que les contrats aidés soient diminués et que finalement, on s'intéresse plutôt à la répression, il faut le faire, qu'à la prévention. Et donc, ce travail de prévention est extrêmement difficile. Tolérance zéro dans l'école de la République.
D'un mot, il nous reste quelques secondes. Votre homologue de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste, demande à Olivier Faure, le premier secrétaire, d'accélérer le processus de désignation des candidats pour les européennes. Il y a urgence, selon vous ?
Elle a raison. Nous allons décider de notre ligne politique sur les européennes samedi prochain au Conseil national du Parti socialiste. Dans la foulée, il faut qu'avant la fin de l'année, nous ayons une liste bien structurée. La question de la tête de liste, naturellement, se posera et elle sera déterminante dans le succès que nous pourrions espérer en mai prochain.
Merci Patrick Kanner, bonne journée.
Merci à vous.